Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, Saint Jean affirme « Dieu est amour ». Et Saint Thomas d'Aquin, bien entendu, étudie l'amour de Dieu. Il faut ne pas confondre la question de la bonté de Dieu et celle de son amour. La bonté nous a montré que Dieu est parfait et que, par conséquent, c'est vers lui que nous devons tendre. Et nous avons vu d'ailleurs que cette tendance, cette recherche que nous devons avoir de Dieu, c'est-à-dire l'amour qui est en nous pour la bonté de Dieu, doit être désintéressée et non pas égoïste. C'est toute la question du personnalisme sur laquelle je ne reviens pas, mais qui est tellement importante, puisque Dieu n'est pas notre propriété. Nous ne l'aimons pas comme quelqu'un qui est à nous, mais Dieu rayonne. Et c'est justement la question sur l'amour de Dieu qui va nous permettre de comprendre un peu mieux ce que Dieu a fait pour nous. L'amour de Dieu, ce n'est plus la perfection de Dieu vers laquelle nous tendons, c'est cette perfection de Dieu qui descend vers nous, qui se communique à nous, qui rayonne. Cela pose de très nombreux problèmes philosophiques dans lesquels nous n'entrerons pas, rassurez-vous, mais cependant, qui ont de quoi troubler. Les musulmans n'arrivent pas à admettre que Dieu puisse aimer des créatures, c'est-à-dire des inférieurs. Les protestants, ce n'est pas qu'ils ne l'admettent pas, mais c'est qu'ils rabaissent Dieu. Ces questions reçoivent une réponse, bien entendu, mais qui n'élimine jamais les mystères. Les réponses à ces questions philosophiques, et c'est pourquoi nous n'entrerons pas dedans, parce que si elles apportaient des réponses totales, je vous les donnerais. Et ce serait facile à comprendre. Mais en réalité, si elles sont difficiles, c'est parce qu'elles n'éliminent jamais le mystère. Pourquoi Dieu aime-t-il d'autres que soi-même? Il est facile de comprendre que le premier objet de l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu s'aime soi-même d'un amour éternel et infini. Ça, c'est très simple à comprendre. C'est difficile de voir ce que peut être le contenu de cet amour, puisque nous ne voyons Dieu que de loin, mais c'est facile. Pourquoi Dieu aime-t-il des créatures? Saint Thomas répond, il les aime en lui-même. Ça, c'est important. C'est très important. Ne croyons pas que Dieu nous aime à cause de nous. Ça, c'est le modernisme de Vatican II. Dieu ne nous aime pas à cause de nous, il nous aime à cause de lui. Seulement, cela pose un autre problème. Y avait-il besoin que Dieu nous aime pour que son amour à lui soit parfait? Y avait-il besoin qu'il nous aime, qu'il rayonne autour de lui pour être vraiment dans la perfection divine? Bien sûr que non, puisque la création tout entière n'ajoute rien à la perfection de Dieu. Donc, Saint Thomas, avec toute l'Église, affirme que Dieu était parfaitement libre en créant, absolument pas déterminé. Seulement, s'il était libre, il y a bien quelque chose quand même qui a causé la création. La réponse ne peut être que lui, Dieu. Il n'y a rien qui détermine Dieu en dehors de Dieu. Dieu communique, il crée, il communique la bonté, pour donner aux créatures la joie de partager sa propre perfection à lui, Dieu. C'est purement gratuit. La grande différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes, c'est que nous, nous aimons des qualités préexistantes, des bontés préexistantes que nous n'avons pas créées, tandis que Dieu crée la bonté purement gratuitement, pour pouvoir communiquer sa perfection, pour communiquer sa perfection. Et même lorsque nous-mêmes nous communiquons une bonté, parce qu'il est vrai qu'il y a chez les parents, par exemple, une ressemblance à l'amour de Dieu, puisqu'ils mettent dans leurs enfants gratuitement des perfections, et que cela n'est pas nécessaire à la perfection d'un homme, d'un chrétien, que d'élever des enfants pour leur communiquer la perfection, et cela ne rajoute rien au bien des parents, je veux dire à leur vertu. Ça n'est qu'une manifestation de leur vertu, un rayonnement de leur vertu. Là, c'est peut-être l'amour, celui des parents, qui ressemble le plus à l'amour de Dieu, parce qu'il est gratuit. Malgré tout, la grande différence, c'est que les parents sont dans la main de Dieu pour communiquer l'amour de Dieu, ce qu'ils donnent à leurs enfants ne vient pas d'eux, cela passe par eux, transite par eux, mais la source est en Dieu. Et c'est Dieu qui, justement, dans son grand amour, choisit les parents pour communiquer cet amour. Là encore, il n'en avait pas besoin, et cela nous fait bien comprendre cette bonté de Dieu qui communique cet honneur aux parents de faire le bien, et un bien considérable puisqu'il s'agit d'élever les enfants, c'est-à-dire de les faire monter, élever, vers l'amour de Dieu. Revenez toujours à la première communion d'un enfant qui montre très bien ce qu'est la véritable vie chrétienne. Dieu n'avait pas besoin des parents. Et on voit bien là le mystère dans lequel nous devons entrer, que nous devons accepter d'abord, dans lequel nous devons entrer, que nous devons admirer, que nous devons adorer. Et c'est cela le grand problème des musulmans. Ils n'acceptent pas le mystère d'un Dieu qui dépasse les conceptions humaines. Et c'est là le grand problème des protestants. Ils refusent un Dieu qui ne soit pas dans les conceptions humaines, avec presque les défauts des hommes et des créatures. Quant à Vatican II, c'est un orgueil démesuré, puisque c'est le même orgueil que les protestants, mais qui prétend se justifier. Les modernistes lisent le credo, le Christ est venu en ce monde, propter nos et propter nostram salutem, à cause de nous et pour notre salut, et ils l'interprètent d'une façon complètement inversée, c'est-à-dire qu'ils font presque de l'homme un supérieur et de Dieu un serviteur. Dieu est venu dans le monde parce qu'il admirait l'homme. L'homme est d'une perfection dont Dieu avait presque besoin, sans laquelle il aurait manqué quelque chose. Pour cela, il faut évidemment rabaisser Dieu, exalter l'homme, et c'est pourquoi on dit qu'avec la religion moderne, ce n'est plus la religion du Dieu fait homme, mais de l'homme fait Dieu. C'est évidemment l'humilité qui nous permet de recevoir de Dieu de si grandes richesses, puisqu'il nous a donné son Fils unique, qui est égal à lui-même, Dieu le Père, recevoir de lui de si grandes richesses, tout en respectant la majesté, la liberté de Dieu, la gratuité totale du don de Dieu. Je passe à la deuxième partie du sermon, après cette première partie théorique, avec le très beau commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de saint Jean, le lavement des pieds, lorsque saint Jean affirme que le Christ, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Parce que la bonté de Dieu est manifestée dans le Christ. Dieu n'a pas voulu que nous fussions des philosophes ou de purs théologiens. Le mystère est beaucoup trop grand. Nous pourrions peut-être avoir une bonne approche, mais Dieu a voulu nous simplifier beaucoup les choses, et c'est pourquoi il a envoyé son Christ dans le monde. Et il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. et son Fils unique manifeste sa bonté. Et lorsque saint Jean arrive à la fin de l'évangile, la fin de la vie du Christ, le jeudi saint, saint Jean, dont le cœur a reposé sur le cœur de Jésus, comprend très profondément cet amour de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin, qui, dans la Somme théologique, s'est mis à la portée des hommes qui se posent tant de questions, et qui leur a donné des réponses si rassurantes, mais qui en même temps leur rappelle que tout cela ne se comprend que dans un mystère, saint Thomas, lorsqu'il commande saint Jean, alors lui aussi met sa théologie à notre portée et nous fait profondément entrer dans l'amour de Dieu à travers l'amour du Christ. Il commence par dire, saint Thomas, comme l'évangile qu'il suit, que l'amour de Dieu est prévenant, c'est-à-dire qu'il vient avant nous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous, nous aimons ce qui existe, tandis que Dieu crée pour communiquer la bonté. Il cite abondamment l'Écriture sainte. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui-même qui nous a aimés le premier. Par conséquent, lorsque saint Jean dit « ayant aimé les siens » au passé composé, il montre un avant, avant de les créer. Avant même de les créer, nous étions déjà présents dans la pensée de Dieu et donc dans l'amour de Dieu. Vous aimez tout ce qui est et vous n'avez de haine pour rien de ce que vous avez fait. C'est toujours l'Écriture sainte. Il les a aimés avant de les créer, il les a aimés les hommes avant de les appeler. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Parce que, rappelons-nous que, je vous en parlerai peut-être une autre fois, nous avons tous été appelés par le baptême. Et ensuite, nous sommes tous appelés à différentes étapes de notre vie. Et cet appel précède notre réponse et il est précédé par l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous appelle à suivre le Christ. Enfin, il nous a aimés avant de nous racheter. C'est pourquoi Jésus-Christ affirme « Personne n'a de plus grand amour que celui qui livre son âme pour ses amis. » Ensuite, saint Jean affirme qu'il a aimé les siens. Et saint Thomas s'attarde pour mettre en lumière l'amour du Christ en montrant que cet amour convenait parce qu'il a aimé les siens. Nous sommes à lui. Mais nous ne sommes à lui justement parce qu'il y a un amour prévenant. Et saint Thomas détaille les diverses manières que nous avons d'être au Christ et à Dieu par conséquent. Trois manières. Tout d'abord, par la création. Et cela, Dieu les aime en conservant pour eux les biens de la nature. Hélas, ceux qu'il aime ainsi ne correspondent pas toujours à son amour. Et voilà pourquoi saint Jean, au début de son évangile, a dit « Il est venu chez lui et les siens, c'est-à-dire les siens par la création, ne l'ont pas reçu. » D'autres sont à lui, dit saint Thomas, parce qu'il les consacre. Ils sont ceux consacrés par la foi. Quel grand amour de Dieu que de nous consacrer à lui, de nous faire entrer dans son mystère. Regardez comme un enfant qui fait sa première communion est consacré à Dieu. Dieu se donne tout en lui, puisque le bon Jésus entre dans son âme, de façon à ce que cet enfant soit tout entier à Dieu. À cause du péché, cette consécration avait été brisée, et Dieu a voulu manifester son amour de façon encore plus profonde et encore plus vive en envoyant son Fils unique dans le monde pour rétablir cette consécration. Et ceux-ci qui appartiennent à Dieu par la consécration de la foi, il les aime en leur conservant les biens de la grâce, les biens éternels, les vertus, les dons du Saint-Esprit. Enfin, il y a une troisième manière d'appartenir à Dieu par un amour spécial, et cela, Dieu les aime spécialement en les consolant. Enfin, troisième point sur l'amour de Dieu, l'évangéliste met en lumière l'amour du Christ en montrant qu'il fut parfait. Il le montre en affirmant que Jésus les aima jusqu'à la fin. Or, la fin, c'est d'abord ce à quoi une chose est ordonnée, vers quoi elle est dirigée. Et la fin, pour nous, c'est la vie éternelle, et la vie éternelle, pour nous, c'est le Christ. Le Christ les aima jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à se donner soi-même. Et Dieu aima les hommes jusqu'à la fin en communiquant cet amour au Christ de se donner soi-même et donc de donner Dieu en se donnant soi-même, puis le Christ, puisque le Christ est Dieu. Vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Et l'Écriture sainte affirme de façon très concise, la fin de la loi, c'est le Christ. Mais la fin, ce n'est pas seulement ce vers quoi nous tendons, c'est le terme de l'exécution, c'est ce à quoi l'action aboutit. Et ici, la mort est dit la fin, c'est-à-dire que l'amour du Christ était tellement grand que cela l'a conduit jusqu'à la mort, jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'il aime. Et jusqu'à la fin signifie que c'est un peu comme un testament, c'est-à-dire que la mort de Jésus-Christ manifeste son amour et par là il veut montrer que c'est cela surtout qu'il leur laisse, à savoir qu'il les aime. Et par conséquent, évidemment, cet héritage, nous le recueillons. Je vous ai parlé des parents tout à l'heure. Ils ne font pas que transmettre de façon naturelle une perfection philosophique. Ils sont les imitateurs du Christ dans l'amour de Dieu. Voilà pourquoi saint Paul affirme que le mystère du mariage est à la ressemblance du mystère de la rédemption, du Christ qui sauve les chrétiens. Il est nécessaire, je termine sur cette note éducative, il est absolument nécessaire que les jeunes, avant de se marier, aient le sens profond de cet amour de Dieu, de cet amour qui va jusqu'au sacrifice, et que nous ne pouvons recevoir que tel qu'il est, c'est-à-dire dans le sacrifice, un amour de sacrifice jusqu'à la fin, que par conséquent nous ne pouvons vivre de cet amour que jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, jusqu'au don de nous-mêmes pour le Christ et pour Dieu. Et lorsque les jeunes ont compris cela, ils ne peuvent entrer dans le mariage qu'en tremblant, et cela éviterait bien des mariages de jeunes qui y entrent avec une désinvolture, sans même se rendre compte de la grandeur, de la richesse, de la profondeur, de l'amour, comme ils disent. Et alors, nous aurions à l'évidence un peu plus de vocation sacerdotale, et nous aurions des bons prêtres. Que Dieu vous donne de vivre dans son saint amour, au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.